Bonjour à tous.
Ils vont faire des autoroutes de l'information, vous aurez même des internets et tout.
Quel est un continent, un intermarché?
Oh non, mais non, mais je vous parle pas de ça! Je vous dis que vous aurez avec une simple souris.
Ça vous chauffe la tête pour votre science et vie?
Sur les nouveaux chemins où toute cette semaine sévèrent les lendemains de la philosophie que nous nous portons. Alors que les sciences, l'histoire, le monde des idées s'annoncent dans les jours qui viennent sur France Culture sous le signe du renouveau, c'est aussi et dès aujourd'hui que les concepts font peau neuve au contact de l'actualité. De la désobéissance toujours civile à l'existence toujours questionnée de Dieu, en passant par l'identité, cette fois-ci au prisme du genre et du postcolonialisme, et en s'arrêtant dès maintenant sur la mémoire infinie du numérique. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins fait elle aussi peau neuve chaque jour. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Lucie Tardy, David Pargamin, Denis Ramon, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes cette semaine Fabien Wolfrom, à la réalisation l'infini Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Alex Dang. Un jour, sur le boulevard Beaumarchais, songerie assez floue à vrai dire, apparue comme malgré moi et disparue très vite, il m'est venu à l'idée de rechercher sur Google ce que j'avais bien pu faire et où je me trouvais l'avant-veille, à 5h du soir, puisque mes souvenirs s'embrouillaient et restaient muets. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver ces informations comme si elles avaient dû être consignées par quelque énigmatique ange gardien, mouchard ou mémorialiste. Il y avait autre chose dans le moment dont je parle. Une vision de l'instant présent, déjà transformée en son image numérique, ralentie, brouillée, tremblant, comme ces brèves vidéos que l'on trouve en chinant dans YouTube. De telles images d'un seul coup n'étaient plus seulement la trace de moments passés, traces imparfaites et volées par miracle. Le monde entrait dans la manière d'être dont elles sont exemplaires. Je le voyais se disposer à rejoindre docilement une infinie réserve d'images d'où nous pourrions tirer plus tard celles de chacun des instants passés. Les portails de l'Internet n'étaient que les sources où l'on allait puiser quelques-unes des images innombrables sous la forme desquelles s'était conservée l'intégralité du passé mondial. La technologie n'était plus ce qui enregistre, elle donnait accès à un enregistrement de l'être par lui-même. Et c'est pour parler de cette nouvelle mémoire qui se fait infinie mais fragmentaire à l'ère Internet que j'ai le plaisir de recevoir Maëlle Renoir, écrivain, philosophe et traducteur, passé par un cabinet ministériel. Maëlle Renoir, à qui l'on doit ces lignes et cette songerie qui ouvre son livre « Fragments d'une mémoire infinie » paru aux éditions Grasset. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci de votre
invitation. Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit au fantôme? Ici le fantôme c'est moi. Dès lors qu'on me demande de jouer mon propre rôle dans un scénario filmique plus ou moins improvisé, au lieu de jouer mon propre rôle, je laisse, à mon insu, un fantôme me ventriloquer, c'est-à-dire parler à ma place. Et c'est ça qui est peut-être le plus amusant. Le cinéma est un art d'une fantomachie, si vous voulez. Et je crois que le cinéma, quand on ne s'y ennuie pas, c'est ça. C'est un art de laisser revenir les fantômes. Alors c'est ce que nous faisons ici. Donc, si je suis un fantôme, c'est-à-dire si actuellement, croyant parler de ma voix, précisément parce que je crois parler de ma voix, je la laisse parasiter par la voix de l'autre, pas de n'importe quel autre, mais de mes propres fantômes, si on peut dire, à ce moment-là, il y a des fantômes. Et ce sont eux qui vont vous répondre, qui vous ont peut-être déjà répondu.
Le passé, une fois accompli, s'il se conserve, où est-il ? Le mettre à l'état de modification moléculaire dans la substance cérébrale, cela paraît simple et clair, parce que nous avons alors un réservoir actuellement donné qu'il suffirait d'ouvrir pour faire couler les images latentes dans la conscience. Mais si le cerveau ne peut servir à un pareil usage, dans quel magasin logerons-nous les images accumulées ? Parce que l'on a montré qu'une chose est dans une autre, on n'a nullement éclairé par là le phénomène de sa conservation. Bien plus, admettons un instant que le passé se survive à l'état de souvenir emmagasiné dans le cerveau. Il faudra alors que le cerveau, pour conserver le souvenir, se conserve tout au moins lui-même. Mais ce cerveau, en tant qu'image étendue dans l'espace, n'occupe jamais que le moment présent. Il constitue, avec tout le reste de l'univers matériel, une coupe sans cesse renouvelée du devenir universel. Cette survivance en soi du passé s'impose donc sous une forme ou sous une autre. Et la difficulté que nous éprouvons à la concevoir vient simplement de ce que nous attribuons à la série des souvenirs dans le temps. Cette nécessité de contenir et d'être contenu, qui n'est vrai que de l'ensemble des corps instantanément aperçus dans l'espace. L'illusion fondamentale consiste à transporter à la durée même, en voie d'écoulement, la forme des coupes instantanées que nous y pratiquons. Mel Renoir, où est le passé ? C'est la question que pose Henri Bergson dans l'extrait du chapitre 3 de Matière et mémoire que je viens de lire. Donc où est le passé, ou plutôt où se conserve le passé ? Il dit que le cerveau semble échouer à conserver le passé tel quel. Il n'y a pas un accès pur aux souvenirs comme ça, à moins que l'on prenne le cas de Derrida. C'était la voix de Derrida qu'on a entendue dans une archive de 1983 dans le film de Ken MacMullen. Et dans cette archive, en fait, il parle de lui-même comme d'un fantôme qui revient. Effectivement, enregistrer une voix, le cinéma et maintenant Internet apparaissent comme ces réservoirs de passé auxquels on a accès aux souvenirs tels quels.
Oui, l'extrait du film avec Derrida est assez extraordinaire. C'est un peu paradoxal de le passer à la radio parce que justement on ne voit pas l'image de Derrida disant qu'il est l'image. C'est-à-dire qu'il pose comme un énoncé qui aura plus tard une plus grande vérité, le fait qu'il est en train d'être transformé par l'enregistrement qu'on fait de lui. Il dit « je suis le fantôme », ce qui d'une certaine manière n'est qu'à moitié vrai au moment où le film est enregistré, puisqu'il est aussi l'être vivant, Jacques Derrida, à ce moment-là. Mais l'énoncé devient vrai de plus en plus à mesure qu'on n'a plus de lui que cette image, que des images parmi lesquelles celle-ci. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que maintenant, alors le film était enregistré au début des années 80, Derrida parle pas du tout de l'Internet, il dit le cinéma comme capacité d'enregistrer des images du monde déjà potentiellement infini. Mais maintenant, on trouve cet extrait sur YouTube, donc il erre dans ce que j'appelle l'étendue numérique. Donc il devient de plus en plus un fantôme, et c'est ce qui m'avait frappé et ce que je dis en analysant un peu ce texte, c'est que son énoncé initial devient de plus en plus vrai à mesure que le temps passe, ou si l'on veut le dire un peu autrement, rentre dans sa signification à mesure que les années passent, que la technologie s'accroît et lui donne une nouvelle forme d'existence et de pérennité. Et quant au texte de Bergson, qui est aussi très, très remarquable, au fond, quand Bergson dit « où est le passé ?», il veut dire « mais le passé n'est pas stocké dans le cerveau, comme dans un magasin, mais il n'est pas non plus rentré dans le néant, il a changé de mode d'être. » Et c'est pour désigner cette transformation ontologique que Bergson au fond, reprend le vieux concept de virtuel et lui donne une signification qui, pour nous, est très forte parce qu'elle elle fait écho à notre technologie et à ce que nous-mêmes avons appelé le virtuel sans forcément penser à Bergson. Mais voilà, une des choses que je me suis plu à faire dans ce livre, qui est effectivement écrit sous forme de fragments, qui sont parfois aussi des petites anecdotes personnelles liées à mon usage d'Internet. Mais il y a aussi un certain nombre de moments où j'essaie de raccrocher l'expérience de cette technologie qui aussi ouvre une grande métamorphose dans notre existence à des textes philosophiques antérieurs où on peut trouver de manière étonnante des sortes d'anticipations conceptuelles de notre expérience.
Alors, ce qui est intéressant dans votre approche aussi d'Internet, Maëlle Renoir, c'est effectivement que dans le texte que j'ai lu au tout début, donc qui est l'incipit de votre livre, donc Fragment d'une mémoire infinie, vous dites bien que les portails de l'Internet, alors déjà vous dites l'Internet,
on pourra revenir, c'est un point anecdotique, mais on peut en parler, oui, je dis l'Internet.
Donc, on y reviendra. Donc, les portails de l'Internet, dites-vous, en fait, conservent l'intégralité du passé mondial. Mais ce stock, s'il est inépuisable, s'il constitue un réservoir d'images, de souvenirs dans lesquels puiser à l'infini, quand on veut, de la manière dont on le souhaite, n'apparaît que de manière fragmentaire. C'est-à-dire que, pour autant, Internet n'apparaît pas comme un monde cohérent qui se constitue en dehors de nous, c'est-à-dire qu'il reste dépendant de la manière dont on va se servir d'Internet, il reste lié à notre manière dont on va se saisir des souvenirs qui apparaissent, il y aura toujours une transformation qui ne va jamais redonner en fait un passé intégral.
Non, d'une certaine manière, Internet c'est un labyrinthe encore plus grand, mais c'est toujours un labyrinthe. Ça répond à beaucoup de questions, ça répond d'une certaine manière à presque toutes les questions factuelles qu'on peut se poser aujourd'hui, mais ça ne résout pas toutes les énigmes. Au contraire, ça, c'est aussi un lieu de cheminement infini, de démarche intellectuelle plus étendue, plus sinueuse, mais qui mérite aussi, et c'est une des choses que j'essaye de faire dans le livre, d'être décrite presque point par point intégralement, un peu à la manière de Proust, en fait, qui raconte ses propres cheminements intellectuels dans sa mémoire, dans ses hésitations, dans ses doutes, dans ses fantasmes. Et toutes ces choses-là passent aujourd'hui par Internet et peuvent tout à fait faire l'objet de descriptions aussi bien littéraires que philosophiques. C'est une sorte de nouvelle ressource pour le récit et pour la pensée. Et pour revenir au texte que vous avez lu, le texte qui est le premier fragment, c'est le début du livre, c'est aussi très, très honnêtement, d'une certaine manière, l'origine du livre. C'est-à-dire que le premier fragment raconte l'idée qui m'est apparu et qui m'a donné envie d'écrire le livre, c'est-à-dire ce sentiment un jour que effectivement, enfin cette rêve, c'est une rêverie, je le décris comme une rêverie, et c'est une rêverie j'aurais pu regarder sur Google pour savoir où est-ce que j'étais, pour fouiller dans ma propre mémoire personnelle qui était flouée. Et là, je me suis dit ce jour-là qu'il y avait vraiment une sorte de changement étonnant dans la structure de l'expérience, parce que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais, dont on n'aurait jamais eu l'intuition auparavant. Mais en fait, cette rêverie se prolonge et devient en quelque sorte hyperbolique quand je dis effectivement que au fond, on pourrait imaginer que cette technologie étant tellement puissante et donnant le sentiment de stocker une telle infinité de données, on pourrait aussi imaginez qu'on retrouverait un passé qui serait au-delà de l'existence de l'Internet. Et je cite juste après une phrase de Lévi-Strauss disant que si jamais un jour on avait, par miracle, on retrouvait des images de la Grèce antique, 3 minutes de film dans une rue d'Athènes, ce serait un bouleversement incroyable. Et on a parfois, je tissais le fil de cette rêverie. en me disant qu'au fond, dans YouTube, parfois, comme dans une sorte de scénario de science-fiction, si on allait au fond, peut-être qu'on trouverait des images de ce passé. Mais là, il s'agit plus d'une sorte de rêverie intellectuelle que de thèse philosophique à proprement parler, évidemment. Mais il y a aussi quelque chose qui me frappe et que j'essaye au fond de développer dans le livre, une sorte d'intuition à laquelle j'essaye de donner corps, c'est que de plus en plus, nos rêveries et notre technologie semblent se rejoindre. C'est-à-dire que nous vivons une sorte de stade asymptotique où, au fond, les grands rêves de l'humanité, de plus en plus, sont accomplis par nos performances technologiques. On a rêvé de voler et nous sommes capables de voler. On a rêvé d'avoir des images du monde et nous en avons. Et Internet aussi accomplit une sorte de... réalise une sorte de vieux rêve intellectuel de l'humanité. Je cite à certains moments du livre certains textes où certains mythes appartenant à une époque extrêmement ancienne où on a l'impression de voir des sortes d'anticipations imaginaires de ce qui nous arrive aujourd'hui.
Mon livre serait peut-être comme un essai d'une suite de romans de l'inconscient. Je n'aurais aucune honte à dire de romans bergsoniens, si je le croyais. Car à toute époque, il arrive que la littérature a tâché de se rattacher, après coup naturellement, à la philosophie régnante. Mais ce ne serait pas exact, car mon œuvre est dominée par la distinction entre la mémoire involontaire et la mémoire volontaire. Distinction qui non seulement ne figure pas dans la philosophie de Monsieur Bergson, mais est même contredite par elle. Pour moi, la mémoire volontaire, qui est surtout une mémoire de l'intelligence et des yeux, ne nous donne du passé que des faces sans vérité. Mais qu'une odeur, une saveur retrouvée dans des circonstances toutes différentes, réveille en nous, malgré nous, le passé. Nous sentons combien ce passé était différent de ce que nous croyons nous rappeler, et que notre mémoire volontaire peignait, comme les mauvais peintres, avec des couleurs sans vérité. Déjà dans ce premier volume, vous verrez le personnage qui raconte, qui dit « je », et qui n'est pas moi, retrouver tout d'un coup des années, des jardins, des êtres oubliés dans le goût d'une gorgée de thé où il a trempé un morceau de madeleine. Voyez-vous, je crois que ce n'est guère qu'au souvenir involontaire que l'artiste devrait demander la matière première de son œuvre. D'abord précisément parce qu'ils sont involontaires, qu'ils se forment d'eux-mêmes, attirés par la ressemblance d'une minute identique, ils ont seuls une griffe d'authenticité. Do you know they just don't make clothes for people who wear spouses? There's no pockets anymore, so we can take your glasses off. They're easy to lose. All right, well, the Yoko Phonics are doing 9, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Mel Renoir, alors tout le monde l'aura reconnu, hein, l'auteur dont je viens de lire un extrait d'un entretien qui date de 1913 et qui évoque son personnage qui, d'une madeleine trempée dans une gorgée de thé, se souvient des années après d'être oublié. C'est bien évidemment Marcel Proust qui distingue, à l'inverse de Bergson, dit-il, la mémoire involontaire de la mémoire volontaire. Et c'est peut-être aussi l'expérience qu'on fait en fait en se promenant sur Internet, sur l'étendue numérique, comme vous dites, Maëlle Renoir. Dès qu'on fait une recherche sur Google, par exemple, on se laisse porter de clic en clic, de rêverie en rêverie, et là nous apparaissent des choses que l'on avait oubliées.
Oui, Proust est un des auteurs auxquels je me suis le plus intéressé. Il y a quelques années, j'ai écrit des articles sur lui. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à Internet assez tard, en fait. à partir du milieu des années 2000. C'est un moment où apparaît YouTube, où les archives qu'on peut consulter sur Internet deviennent vraiment de plus en plus étendues. Et j'ai été frappé par le fait que l'Internet se présentait comme une sorte d'immense machine à réminiscence. Ce qui a presque une formule oxymorique, puisque la réminiscence chez Proust est toujours est du côté de la mémoire involontaire. Et en même temps, sur l'Internet, ça s'associe à une forme de machinisme, au sens où, d'abord, c'est apporté par la technologie, ça c'est lié au processus technologique. Et puis, on pouvait aussi, d'une certaine manière, reproduire des phénomènes de réminiscence, en faire quelque chose d'une certaine manière de reproductible, ou les insérer dans une recherche volontaire. Dans le livre, à un moment, je procède à une sorte d'expérimentation. Je fais un collage de citations, de commentaires trouvés sur YouTube en dessous de vidéos de musique
de tubes des années 70,
de toutes sortes de choses, des chansons de Barbara, ou aussi bien de la musique de boîte de nuit des années 90.
Et c'est des commentaires à la fois en anglais, en français, en espagnol.
Oui, alors c'est sous l'égide d'une sorte d'équation que je forge en prenant deux vers de Baudelaire. Mon gosier de métal parle toutes les langues, plus j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. C'est vraiment le sentiment qu'on a en lisant ces commentaires. Évidemment, l'anglais est assez dominant, mais on peut quand même trouver des commentaires écrits dans d'autres langues, écrits par des gens qui habitent aux quatre coins de la Terre, et exprime sous forme de graffiti des réminiscences proustiennes venues de partout. Et ça m'avait beaucoup frappé, c'est comme une sorte de sociologie universelle de la réminiscence. Parfois simplement des petites phrases qui sont un peu d'ailleurs souvent les mêmes. C'était le bon temps, good old days.
Nostalgie apparaît beaucoup.
Oui, nostalgie et mélancolie. Et alors parfois c'est beaucoup plus détaillé, c'est-à-dire que des gens racontent sur 5 lignes leur réminiscence de manière assez poétique, assez sauvage. Enfin j'étais frappé par parfois l'idée que la réminiscence c'est un sentiment d'esthète, Baudelaire, Nerval, Chateaubriand, Proust est une sorte de littérature élitiste, donc qui parle de choses qui concerne pas forcément tout le monde, mais en réalité là il y avait quelque chose de qui donnait raison à tous ces auteurs qui avaient placé ce sentiment au cœur de l'existence. Et effectivement, en composant ce que j'appelle le mur des réminiscences, ce qui est très frappant aussi, c'est de voir la diversité des approches affectives dans ces commentaires, puisque il y a ceux qui parlent de nostalgie, il y a ceux qui parlent de mélancolie, il y a ceux qui parlent de douleur, il y a ceux qui parlent de joie, et il y a ceux qui disent c'est les deux en même temps et on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors moi je suis plutôt tendance à penser que ce genre d'expérience, enfin moi je la place plutôt sous le concept de mélancolie, la mélancolie étant justement l'affect le plus ambigu, celui qui se définit par un mélange inextricable de joie et de douleur. Les deux grandes formules de la mélancolie, ce sont deux oxymores, c'est le soleil noir de Nerval et le plaisir d'être triste de Victor Hugo. Et donc il y a des internautes comme ça qui retrouvent cette intuition dans leurs commentaires déposés sur YouTube sous je sais pas quel enregistrement de ABBA ou de Barbara, enfin selon là. Et quand on alors je dis aussi un peu dans la continuité de ce mur des réminiscences que cette grande machine mémorielle peut donner le sentiment d'un trouble entre mémoire volontaire et mémoire involontaire, effectivement, puisque le cheminement étant potentiellement infini, on finit par trouver des choses qu'on ne cherchait pas, et donc par arriver à des réminiscences à partir de recherches volontaires de choses de notre passé. Et par ailleurs, puisque vous avez fait passer, vous nous avez fait écouter le très beau, très bel extrait de Einstein on the Beach
de Philippe Glass,
que je le mentionne aussi parce que ça, après la, je l'avais vu quand il était, quand il avait été donné à Paris en début 2014, et je me souviens qu'après ça m'avait tellement hypnotisé que je passais beaucoup de temps justement sur YouTube à réécouter en boucle des passages, et en fait le mur des réminiscences. Dans son côté hypnotique, répétition de formules en anglais sur... Il y a d'ailleurs un des passages de l'opéra qui ressemble vraiment à ces petites formules que je reprends. Mais c'est une pure association d'idées qui m'est venue après.
On fait souvent d'Internet, Maëlle Renoir, justement un mur, une surface où on va exposer son intimité. Ce que vous décrivez semble être le contraire, c'est plutôt en fait ce qu'on va trouver sur Internet, que l'on va s'approprier, qui va devenir notre intimité, qui va être en fait le prolongement de notre mémoire ou qui va s'en faire le prolongement en réactivant des souvenirs oubliés. Comment Internet finalement va entamer cette distinction entre l'extériorité et l'intériorité, entre la conscience du monde qui se dessine avec Facebook et puis notre propre conscience.
L'Internet donne le sentiment qu'on s'approche de quelque chose comme l'effacement des frontières entre l'intimité et l'extériorité. Mais ça va d'une certaine manière dans les deux sens. D'un point de vue en quelque sorte néo-hégélien, on pourrait considérer que les choses rentrent de plus en plus dans ce que Hegel appellerait l'intimité de l'esprit. Donc l'extériorité se spiritualise, elle se dématérialise, elle devient image, elle devient signe, elle devient enregistrement. Et de l'autre côté, nous, êtres humains, nous exposons dans un mouvement en quelque sorte inverse et réciproque notre propre intériorité sur les réseaux sociaux ou effectivement sur YouTube. Ça, parfois un sentiment, moi j'ai un sentiment fascinant, parfois un peu terrifiant, de voir en quelque sorte s'ouvrir l'esprit des gens qui expriment en fait ce qui leur... Internet est le lieu où on exprime ce qui nous passe par la tête, donc il y a une sorte de mise à nu des consciences qui est parfois très émouvante, comme lorsqu'il s'agit d'exprimer des réminiscences.
En même temps, un petit peu intrusive aussi.
Mais parfois aussi très, très violente, très brutale. Enfin, on a parfois le sentiment d'assister à des sortes de guerre civile, enfin, sur des sujets parfois qui ne le méritent pas, mais il y a une sorte de brutalité du rapport des consciences mises à nu, parce qu'il n'y a plus cette pacification que crée le face-à-face, le visage, la présence des corps.
Vous parlez d'ailleurs d'intimation, c'est-à-dire il y a vraiment en fait cette articulation entre l'intimité et l'intimation, mais effectivement il y a une intimation comme on intime un autre, c'est-à-dire certains souvenirs d'autres personnes nous sont imposés ou on va les chercher de manière voulue, mais effectivement il y a parfois des souvenirs intimes auxquels on résiste. On est à la fois intimé de les regarder, de les voir, et en même temps, notre intimité résiste. Il y a quand même une altérité avec Internet. C'est pas complètement notre conscience, c'est-à-dire que c'est un prolongement, mais il y a quelque chose de notre intériorité, notre individualité qui résiste.
Ouais, pour moi, Internet reste un auxiliaire infini, mais un auxiliaire de la subjectivité. C'est au fond... malgré le saut, enfin, l'immense saut... qualitatif, technologique que ça représente. Ça reste dans la continuité de l'invention de l'écriture. Donc on se pose toujours au fond les mêmes questions que Platon dans le Phèdre, disant mais oh mon Dieu, c'est terrible, maintenant qu'on a inventé l'écriture, les gens vont perdre la mémoire puisqu'ils vont plus l'exercer. Bon, c'est des questionnements qui reviennent là, avec l'Internet, mais
pour le coup, on a retrouvé de nouveau la mémoire si l'on vous suit. C'est-à-dire que c'est même une mémoire à laquelle on n'aurait jamais osé rêver. Même Borges n'aurait pas rêvé une mémoire infinie comme Internet.
Oui, mais c'est une mémoire extériorisée. Comme l'écriture, justement. Une des choses qui me frappe et qui est un peu dans la continuité du premier fragment que vous avez lu tout à l'heure, c'est que on vit une époque étrange où la mémoire personnelle, la mémoire que nous avons de notre propre vie, est devenue beaucoup plus faible, beaucoup plus incertaine, beaucoup plus fragile, beaucoup plus floue que la mémoire extériorisée que nous pouvons avoir des connaissances de toutes les choses qui se sont passées dans le monde. Nous pouvons, avec le téléphone que nous avons dans notre poche, nous pouvons répondre à toutes les questions qui nous passent par la tête, la question de savoir à quelle heure est le train pour Berlin demain. Comment je dois remplir telle case de tel papier administratif, enfin, chose qui pouvait autrefois nous laisser perplexes, etc.
Oui, c'est un intellect incollable, vous dites.
Oui, j'appelle ça l'intellect incollable, oui. Nous pouvons savoir qui était président du Conseil en 1953, chose que... En fait, on peut retrouver toutes les connaissances extérieures que autrefois nous assimilions à grand peine et que nous avions toujours tendance à oublier. Alors qu'autrefois, nous pensions que, au moins, il y a quelque chose que nous n'oublierions jamais, c'était notre propre existence. Mais aujourd'hui, on peut répondre à toutes ces questions concernant le monde et son histoire, mais en revanche, Internet, en tout cas pour l'instant, mais ça va probablement changer, Internet ne peut pas nous dire où nous avons posé nos clés, peut pas nous dire...
Si, ça c'est possible, maintenant on est connecté, il y a des porte-clés où on peut s'appeler, effectivement, nos
Oui, non mais ça va apparaître. Mais là, disons que ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on vit un moment un peu étrange et assez poétique, mais qui est aussi certainement provisoire, où on peut pas répondre aux questions qui nous concernent. Et à la fin, je me livre à une sorte de petite phénoménologie subjective de ce genre de sentiment. Je me pose souvent la question, je pense que je suis pas le seul, mais je sais jamais quel est le dernier film que j'ai vu au cinéma, par exemple. Et je raconte qu'un jour, donc je me sens, mais quel est le dernier film que j'ai vu au cinéma? Et j'avais le sentiment d'être plongé dans une sorte de gouffre ténébreux sans savoir où était la surface, où était le sol. Je n'arrivais pas à me repérer dans ma propre mémoire. Et je me disais, mais mon téléphone ne peut absolument pas m'aider. Et ça, j'ai trouvé cette expérience extrêmement frappante et comme si j'avais l'impression de vivre quelque chose de nouveau dans l'histoire de la conscience. Je pouvais répondre à toutes les questions sauf celle-ci qui était triviale et qui me concernait. Et quand finalement le souvenir que je cherchais est remonté à la surface de ma mémoire, j'ai été extrêmement surpris aussi parce que ça m'est apparu comme quelque chose de très différent au fond de ce qui se passe d'habitude. C'est-à-dire que maintenant, quand on cherche une information, on inscrit des mots-clés, on clique, etc. Donc il y a quand même un processus d'enclenchement de la mémoire technologique qui donne une réponse. Et là, le fait de sentir en moi remonter le souvenir de manière totalement spontanée et involontaire sans que j'y ai pris part, par une demande, m'a extrêmement surpris.
Passwords, secret from the wife. Google Law. Vous êtes sur France Culture et vous êtes à l'écoute d'une semaine spéciale Demain les Savoirs en partenariat avec l'admission Ces Lettres organisée par l'ENS et qui aura lieu ce vendredi 3 juin de 18h30 à 2h du matin. Semaine spéciale donc aussi dans les nouveaux chemins de la connaissance où nous recevons toute cette semaine de jeunes philosophes. Et aujourd'hui, c'est Maëlle Renoir, notre invitée. Maëlle Renoir, philosophe, écrivain et traducteur, auteur des Fragments d'une mémoire infinie. C'est aux éditions Grasset et aussi de la réforme de l'opéra de Pékin que vous trouverez chez Payot et Rivage.
Il faut bien que la raison que l'homme consulte soit infinie, puisqu'on ne la peut épuiser, et qu'elle a toujours quelque chose à répondre sur quoi que ce soit qu'on l'interroge. Mais s'il est vrai que la raison à laquelle tous les hommes participent est universelle, s'il est vrai qu'elle est infinie, s'il est vrai qu'elle est immuable et nécessaire, il est certain qu'elle n'est point différente de celle de Dieu même, car il n'y a que l'être universel et infini qui renferme en soi-même une raison universelle et infinie. Toutes les créatures sont des êtres particuliers. La raison universelle n'est donc point créée. Toutes les créatures ne sont point infinies. La raison infinie n'est donc point une créature. Mais la raison que nous consultons n'est pas seulement universelle et infinie, elle est encore nécessaire et indépendante, et nous la concevons, en un sens, plus indépendante que Dieu même. Car Dieu ne peut agir que selon cette raison, il dépend d'elle en un sens. Il faut qu'il la consulte et qu'il la suive. Or, Dieu ne consulte que lui-même, il ne dépend de rien. Cette raison n'est donc pas distinguée de lui-même. Elle lui est coéternelle et consubstantielle.
Maëlle Renoir, on vient d'entendre un texte de Malebranche, cet extrait de La recherche de la vérité qui date de 1674, interprété par le comédien Fabien Wolfram. Dans ce texte, Malebranche utilise ce verbe qui nous est très familier de consulter. Il dit que l'on consulte la raison de Dieu comme nous aujourd'hui consultons Google comme c'était une raison divine. Et c'est vrai que Internet, Google, tous les opérateurs de recherche apparaissent comme des raisons infinies dans lesquelles puiser et sont divins en cela.
Oui, je ne suis pas du tout spécialiste de Malebranche, mais ça m'a beaucoup frappé en écrivant le livre de tomber sur ce texte. Et en fait, après, je me suis rendu compte que ce concept de consultation chez Malebranche apparaît extrêmement souvent. J'avoue que j'ai pas été voir si d'autres philosophes du XVIIe siècle l'utilisent, mais je n'ai pas souvenir, enfin en tout cas, je ne vais pas me souvenir que Descartes ou Spinoza l'utilisent de cette manière. Et surtout, la première phrase du texte est vraiment étonnante parce qu'il dit que nous consultons la raison qui a toujours des réponses à quelles que soient les questions qu'on lui pose.
Donc, comme vous disiez tout à l'heure, à savoir si je veux savoir.
Oui, alors évidemment, ce n'est pas les questions que Malebranche pose à la raison, mais enfin, nous avons des réponses aux questions factuelles. En l'occurrence, je pense que ce n'est pas ce genre de questions que pense Malebranche.
Quelle question posait Malebranche à la raison de Dieu ?
Je pense que c'est des questions qui concernent plutôt l'ontologie et la théologie et la morale. Mais après tout, non, mais peut-être que ça peut concerner aussi la question de savoir qui était président du conseil en 1953. Mais oui, c'est vrai. Oui, mais c'est très amusant d'ailleurs de jouer à poser des questions métaphysiques à Google. Et l'autre chose qui est intéressante chez Malebranche, c'est qu'il est aussi l'inventeur du concept de détendu intelligible, qui a aussi une résonance extrêmement forte avec ce que nous expérimentons avec l'internet, puisqu'on a le sentiment de quelque chose qui est étendu tout en étant immatériel. Enfin, il y a une sorte de spatialisation de l'esprit, mais qui reste, qui n'appartient pas au monde physique. C'est pour ça que je distingue. Et du coup, je forge le concept d'étendu numérique que je pose à l'étendue physique dans le livre.
Mais ce qui est
inspiré de Malebranche, mais ça correspond pas au concept de Malebranche, mais c'est vraiment inspiré et de la manière frappante dont il a forgé son concept.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a parlé beaucoup de mémoire, de temporalité en fait, d'internet, de puiser dans internet comme dans un stock infini du passé. Mais il y a effectivement cette idée d'étendue infinie, quelque chose de beaucoup plus spatial. Ce qui est intéressant parce que Bergson essayait de penser, de retrouver la durée quand il parlait du souvenir, d'essayer d'éviter que nos souvenirs deviennent soient spatialisés, comme il dit, c'est-à-dire découpés dans le temps et perdent en fait leur teneur. leur liberté, leur notre moi profond. Et finalement, avec Internet, on a aussi un espace qui est sans espace, qui n'est pas spatialisé, qui n'est pas découpé dans le temps, mais qui va restituer une sorte de matière dématérialisée, en fait. Internet va être cette sorte de pure virtualité, finalement.
Oui, c'est une c'est une manière pour les choses de rentrer dans une forme d'esprit un peu à la manière hegelienne, mais c'est aussi dialectique hein, d'une certaine façon, parce que les choses rentrent dans la dimension de l'esprit qui correspond aussi à une forme de salut, en fait, quand on enregistre une image, quand on la met sur Internet, on a l'impression qu'elle va être sauvée. En fait, par exemple, une photographie est vulnérable, elle est vue par personne, elle peut brûler, elle peut. Si on la met sur Internet, elle entre dans l'esprit. Enfin, c'est comme ça que je réinterprète un peu à ma façon Hegel. Elle est aussi sauvée, elle est mise à disposition de toutes les consciences qui peuvent y accéder. Elle est mise en relation avec une sorte d'immense musée imaginaire. Mais ce qui est aussi... et donc on a l'impression que les choses se métamorphosent, se spiritualisent. Mais il y a aussi une dialectique qui fait qu'on a aussi souvent le désir de les rematérialiser, de les ressortir de cette immense étendue pour leur redonner une tangibilité physique. Donc il y a une dialectique aussi entre l'étendue numérique et l'étendue physique qui est de plus en plus frappant. Je raconte quelques anecdotes dans le livre. Un jour, quelqu'un me dit qu'il a fondé une start-up qui fait des livres à partir des SMS des gens. Et je pense qu'on va aussi assister à des phénomènes de plus en plus nombreux de ce genre, de dialectisation du numérique et du physique.
Oui, parce que finalement, en fait, c'est le point duquel aussi vous partez, Maëlle Renoir. Vous dites que c'est une rêverie au début, le texte que j'ai lu, quand vous vous dites, imaginons, je pourrais peut-être trouver sur Google ce que je faisais l'avant-veille à 17h. C'est une sorte de fiction, mais qui permet quand même de penser une nouvelle ontologie aussi de ce qu'est l'être sur Internet, un nouveau statut de l'être qui serait virtuel, dématérialisé, qui serait totalement subjectif, mais en même temps totalement disponible. Mais quel est cet être que rend disponible Internet ? Est-ce que c'est... Vous parlez beaucoup d'images. Alors, est-ce que ce serait un être sous forme d'images ? Est-ce que ce serait un être comme des concepts qui dépasserait notre physique, notre état naturel, notre état vivant ? Quels seraient ces êtres, cette ontologie que proposerait Internet ?
Internet nous procure en quelque sorte le rêve d'un être spirituel, mémoriel. Enfin, d'une certaine manière, c'est une nouvelle étape dans les grandes philosophies de la réminiscence. La vieille idée de la réminiscence, c'est que être égale passé, une sorte d'équation entre l'être et le passé, aussi bien chez Platon que chez Proust. Donc on a... avec cette, on a le sentiment d'une rentrée des choses dans le passé et dans une forme d'esprit spatialisé à sa manière que nous pourrions rêver en quelque sorte d'habiter pour y faire notre salut. Mais ça reste effectivement une forme de rêverie. Mais j'utilise beaucoup la rêverie pour en quelque sorte créer des matérialiser des intuitions qui sont philosophiques, mais qui sont aussi d'une certaine manière littéraires, puisque c'est aussi une autre partie de mon travail, et le livre lui-même est entre les deux d'une certaine manière.
Alors, qu'est-ce que sauve Internet ? Vous parlez de sauver. Est-ce qu'on on a l'impression que personne ne peut échapper à Internet d'une certaine manière, que c'est un monde de plus en plus grand qui embrasse tout le monde ? Si c'est la raison infinie de Dieu, si on s'inspire de Malebranche, si Internet est le nouveau Dieu, il embrasse bien tous les êtres en son sein. Est-ce qu'il y a quelque chose de nous échapper ?
Internet, pour moi, n'est pas le nouveau Dieu du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'écris, on en parlait tout à l'heure, l'Internet L'apostrophe
alors, allez-y,
avec une minuscule et pas Internet avec une majuscule. Parce que pour moi, l'Internet est plutôt une sorte d'élément comme l'air, l'eau, l'atmosphère, le feu. Enfin, c'est une structure du monde. C'est quelque chose qui
c'est
nous,
un nom
qui
commun
nous englobe.
Aussi.
C'est un nom commun. Donc, mais c'est, écrire Internet avec une majuscule donne le sentiment justement qu'on en fait quelque chose comme une sorte de nouvelle divinité. Païenne ou d'ailleurs pas païenne du tout. Et c'est pas du tout. Justement, parmi les songeries que m'inspire Internet, il n'y a pas du tout celle que ça va nous submerger, que ça va nous remplacer. Enfin, que.
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas du
tout.
Pour
moi, ça reste vraiment une auxiliarité infinie.
Vous ne procédez pas à une critique d'Internet comme on trouve souvent ça d'ailleurs dans les essais sur le numérique.
C'est pas du tout, non, c'est pas du tout mon approche. C'est vraiment une manière de s'ancrer dans l'expérience de cette chose, d'en faire parfois une sorte de phénoménologie subjective, littéraire ou philosophique. Il n'y a pas vraiment de jugement sur Internet. C'est précisément ce que je voulais pas faire, puisque enfin beaucoup de gens le font par ailleurs. Et puis c'est une mutation tellement globale que le jugement est souvent un peu dérisoire en fait. Je voulais plutôt observer cette mutation. Emporter en quelque sorte témoignage aussi, parce que les choses passent tellement vite que bientôt nous oublierons aussi ce qui s'est produit, nous oublierons les petits phénomènes de métamorphose que nous avons vécu. Elle est tellement globale que beaucoup de ces aspects sont aussi insensibles, et j'avais envie par moment de les noter pour les faire apparaître.
Vous dites tellement global, mais néanmoins, vous dites aussi qu'on peut échapper à cette puissance qu'est l'Internet, car ça n'est pas Internet, ça n'est pas Dieu. Alors, comment on peut échapper, ou du moins sans échapper, comme pour éviter de prendre un terme qui serait comme de l'ordre de la fuite face à une menace, du moins, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors d'Internet, qu'est-ce qui serait une manière alternative de penser la mémoire, c'est-à-dire de ne plus penser la mémoire avec Internet, mais se dire que est-ce qu'on doit dire qu'on doit penser par nous-mêmes, est-ce qu'on doit dire qu'on doit reprendre conscience de nous-mêmes, est-ce que ce serait ça une manière de dire qu'il y a un refuge possible en dehors d'Internet?
Ah, je ne sais pas si on peut échapper à Internet. J'aurais plutôt tendance à penser qu'on vivra de plus en plus avec et que
sans que ce soit Dieu pour autant.
Non, mais ça se raccrochera à notre existence de plus en plus. Ça reste un outil aussi infini soit-il. Donc, ce qui importe, ce sont les usages que nous en faisons. Mais nous serons probablement obligés de changer un certain nombre de choses dans notre morale, par exemple. C'est déjà le cas en réalité.
Par exemple,
sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de soi. Donc nous avons déjà repoussé la vieille frontière judéo-chrétienne qui nous disait « il ne faut pas trop parler de soi, soyez humble, soyez modeste ». Maintenant, tout le monde parle de soi, donc la norme s'est déplacée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de jugements moraux. Les critères ont changé. Je suis frappé de voir sur les réseaux sociaux des gens qui ne parlent que d'eux-mêmes et qui le font très bien, avec une sorte de, avec le ton juste. Enfin, donc... notre morale est en train de changer, et je pense qu'elle devra aussi, nous devrons aussi apprendre à vivre avec cette violence dont on parlait tout à l'heure sur certains réseaux, sur certains forums où on observe une sorte de guerre des consciences qui s'affrontent. Soit nous apprendrons à devenir insensibles à ces phénomènes, soit nous apprendrons à les réguler et à nous retenir de nous livrer à ces types de violences. On ne sait pas encore dans quelle direction on va aller, mais nous serons obligés de nous transformer nous-mêmes en étant pris dans cette métamorphose.
Souviens-toi de m'oublier.
Merci beaucoup, Maëlle Renoir. On se quitte sur Serge Gainsbourg et Catherine Deneuve. Souviens-toi de m'oublier, ce que ne permet pas Internet désormais, puisque personne n'y échappe. Donc je rappelle que votre livre, c'est Fragments d'une mémoire infinie. C'est sorti le 16 mars dernier aux éditions Grasset. Et puis vous êtes aussi l'auteur de la réforme de l'opéra de Pékin qui a reçu le prix décembre en 2013. Et puisqu'il s'agit, chers auditeurs, d'une semaine spéciale Demain les savoirs sur France Culture à l'occasion du partenariat avec la nuit Science et Lettres qui aura lieu ce vendredi 3 juin de 18h30 à 2h du matin à l'ENS, eh bien chaque jour, l'équipe des Nouveaux Chemins est allée à la rencontre de jeunes doctorants de l'ENS pour leur demander en quoi leur thèse pouvait éclairer le monde. Et aujourd'hui, eh bien c'est Ségolène Lepileur qui prépare une thèse dont le titre provisoire est La préhistoire, sciences naturelles ou sciences humaines, le cas de l'image paléolithique, qui relève le défi en 2 minutes 30 de répondre à cette question au micro d'Antoine Ravon.
Une thèse sur quoi?
Sur rien.
Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça.
Ma thèse peut peut-être moins éclairer le monde que lui proposer une petite marche à la lampe torche, hein, histoire de revenir à l'une des plus lancinantes questions de l'histoire de l'humanité, qui est de savoir d'où on vient. Alors pour en avoir une idée, j'ai voulu scruter les parois des grottes et les objets d'art façonnés par ces hommes de l'âge glaciaire. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces représentations sont les premières manifestations claires de l'intériorité de nos ancêtres. Notre lecture de l'art préhistorique en dit vraiment beaucoup sur nous-mêmes. Et il y a un jeu de miroir assez captivant dans la manière dont cet art a été étudié depuis le 19e siècle. C'est un jeu identitaire, mais c'est aussi un jeu scientifique qui met aux prises le désir d'objectivité des préhistoriens avec leurs préconceptions philosophiques sur ce que c'est que l'humanité. Et finalement, à l'intersection des sciences naturelles et des sciences humaines, les études préhistoriennes sur ces images paléolithiques sont aussi un poste d'observation privilégié sur les rapports entre plusieurs manières de voir le monde et de comprendre l'homme. On a au départ imaginé l'art pour l'art, plutôt à l'époque où on n'avait que des objets, et puis on a pensé à une forme de magie de la chasse, mais en fait ça marchait pas parce que les espèces représentées et les espèces chassées, c'était pas les mêmes. Et puis on a pensé à l'époque du structuralisme, on a pensé à une espèce de langage, et donc il y a des chercheurs qui ont proposé une dualité, enfin que les animaux pouvaient avoir une valeur mâle ou femelle. Plus récemment, enfin il y a une reviviscence d'une hypothèse chamanique. Voilà, et finalement on n'en sait rien, on suppose généralement qu'il y a une recherche spirituelle, ou religieuse, ou mythique, voilà, derrière ces œuvres. Certains ne sont pas d'accord, pensent que ce sont des graffitis d'adolescents, voilà, qui ont le goût du risque et donc sont descendus dans le noir pour faire tout ça. Mais en fait, on ne sait pas. Et c'est ça qui rend cet art absolument fascinant et captivant. L'interprétation est sans cesse relancée sans qu'on puisse avoir le fin mot de l'histoire.
Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse
Non, personne.
Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, hein?
Pour faire parler les cons.
Et merci beaucoup Antoine. Eh bien, on se retrouve demain, chers auditeurs, pour la suite de cette semaine. Demain, les savoirs sur France Culture. Et demain, du côté de la philosophie, on se demandera si Dieu existe et si on peut encore y croire avec Yann Schmidt, professeur en classe préparatoire, rédacteur en chef de la revue Théorème, et Anthony Feneuil, maître de conférence en théologie à l'Université de Lorraine, fondateur et directeur de publication de la théorie Théorème aussi. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.